pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir.
Oui, bonsoir. Excusez-moi, j'avais le nez plongé dans mes notes. Bonsoir. Eh ben, ce soir, on n'a pas forcément de thématique centrale à notre émission. On va faire une émission quand même de critique de l'actualité hyper récente, puisque normalement, sauf si vous habitez dans une cave, vous avez certainement dû voir que l'escalade guerrière au Proche-Orient est donc, du point de vue international, est en train de monter de jour en jour. Dans cette région qui était déjà une poudrière en temps normal, mais avec la guerre que mène l'État israélien vis-à-vis de Gaza et des Palestiniens d'une manière générale, on est en train de basculer dans quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus contagieux. Alors, ce n'est pas évidemment que de la responsabilité de l'État israélien et de Netanyahou, même si il est évident que dans sa stratégie guerrière, ces derniers jours, il y a une volonté de ressouder la communauté internationale derrière sa personne et de trouver de nouveaux prétextes pour alimenter cette stratégie guerrière et donc son maintien au pouvoir. Mais il y a évidemment, depuis maintenant 25 ans, une destruction de toutes les entités et de toutes les vecteurs de stabilité dans ce Proche-Orient, que ce soit l'Irak, la Syrie, le Liban. Est-ce que le Liban existe encore d'ailleurs ? Bonne question. Mais bon, enfin, tous ces ensembles-là a été au gré des jeux et de l'incapacité de la soi-disant communauté internationale à créer des vecteurs de stabilité et vecteurs de paix.
On a d'ailleurs... Petite remarque, d'ailleurs, oui. Au niveau international, les institutions, je vise surtout l'ONU, là, c'est complètement paralysé, ça n'existe plus, hein. C'est clair.
C'est la fin. Comme on a pu voir le 7 octobre, un espèce d'ordre stratégique au niveau de la guerre et de la défense d'Israël s'effondrer, on est en train d'assister à l'effondrement de l'ordre géopolitique international tel qu'il était issu de la Seconde Guerre mondiale, d'une part, des vainqueurs, hein, bien sûr, mais aussi de la fin de l'Union soviétique et de l'affrontement entre ces deux grands blocs. On est dans une phase de recomposition à l'échelon international. Alors, certainement pas pour quelque chose de mieux, hein, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais il y a des axes de bascule qui sont en train de se faire. Et malheureusement, en général, entre impérialistes et dans le capitalisme, ces axes de bascule-là, ils ne se font pas dans la douceur, ou dans la conciliation, mais plutôt dans le rapport de force, quoi. On a d'ailleurs appris au détour d'une phrase, même si ça avait été bien mis en avant par les forces de défense israéliennes, l'armée israélienne, que la France avait participé, oui, avec d'autres nations à l'interception des missiles et des drones iraniens sur
Ouais, enfin, faut pas non plus exagérer, hein. Je crois que la France n'a pas fait grand chose.
On est quand même
protéger. Protéger, c'est là où elle a du pouvoir, etc. Mais
alors, certes, je suis en désaccord avec toi parce qu'il y a une base en Jordanie, hein, sur laquelle il y a des mirages. Donc, il y a des mirages qui ont décollé et qui sont allés, pas forcément interceptés, mais en tous les cas, donner des renseignements. Mais à la limite, tu as raison, il y a déjà de l'armement français qui est sur place. Il y a déjà évidemment une collaboration avec les services de renseignement. Il ne faut pas être naïf, comme il y a déjà des Français, des Américains, des Anglais et d'autres personnels de l'OTAN en Ukraine. Ne soyons pas stupides. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela a été mentionné par l'armée israélienne afin, on va dire, de mouiller.
De mouiller la France.
De mouiller, évidemment, la France comme les autres. Donc, on va essayer de revenir un petit peu, puis de regarder quand même cette séquence, parce qu'elle est, de mon point de vue, assez intéressante par rapport au discours et à l'escalade guerrière qu'on est en train de marcher. Donc, le 1er avril 2024, c'est pas un poisson, hein, cherchant une stratégie pour ressouder le soutien occidental, comme vous disiez, à son massacre en cours à Gaza, Israël a attaqué l'Iran en détruisant son consulat à Damas, en tuant 16 personnes. On est quand même sur une attaque de consulat. Donc, en droit international, quand on attaque une représentation diplomatique, un consulat, une ambassade, etc., c'est comme si on attaquait le pays, en fait, hein, puisque...
Je te coupe tout de suite quand même un truc important, intéressant d'ailleurs, c'est qu'Israël n'a pas à revendiquer cette attaque.
Mais elle n'a pas démenti non plus.
Ah non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que c'est eux, c'est évident.
Bien sûr.
Mais il n'empêche que c'est quelque part symptomatique. Quand on écoute les télévisions et les journaux en France, quand on lit les journaux, on te dit c'est prétendu, on ne sait pas, on n'a pas de preuves. Hein. Tu vois, c'est comme d'habitude, il n'y a pas de preuves. Hein, si ça avait été fait par, je ne sais pas, le clan en face...
C'est largement probable. Oui, mais je crois qu'il y a, enfin, pour une personne qui est, on va dire, qui s'informe, on va dire, il y a assez peu de doutes. Hein. Et donc, le 13 avril, en représailles, en riposte, une attaque de drones et de quelques missiles contre Israël a été faite par l'Iran, qui, elle, l'a assumé, pour le coup, et a fait un blessé. Hein. De l'autre côté, on a 16 morts. L'argumentation étant de dire que cette représentation diplomatique abritait des militaires et était en fait un centre. Alors évidemment, il y a toujours des militaires dans les représentations diplomatiques, mais ça, c'est en train d'être le grand truc, en fait. Les consulats, donc, c'est des centres militaires, et les hôpitaux, ce sont des centres de commandement. Hein. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête pour la prochaine guerre, c'est ça. Donc, depuis, comme tu l'as dit, une large partie des médias tente de nous faire croire à une espèce d'attaque unilatérale de l'Iran envers Israël, qui serait d'une gravité extrême, très grave, et qui serait une attaque gratuite de l'Iran. Donc, l'Iran serait évidemment dans l'axe du mal, dans le camp du mal, et on aurait voulu s'en prendre à une démocratie, quoi. Alors, c'est non seulement une lecture stupide, c'est surtout une lecture orientée, et c'est surtout une lecture qui crée artificiellement un soutien à Israël, pays et armée qui sont en train, encore, puisque les opérations militaires ne sont pas achevées dans la bande de Gaza, mais en train encore de massacrer des dizaines de milliers de personnes, quoi. Et par ailleurs... qui va permettre, on va dire, de mettre hors jeu toute personne qui critiquerait Israël et apporterait un soutien aux Palestiniens, au peuple palestinien, les rangeant, les mettant dans un camp, celui de l'Iran, et donc d'agiter ce camp. Donc, il faut quand même revenir aussi encore un peu plus loin, puisque ça, c'est pas la même chose. Donc, le départ de l'escalade guerrière, ce sont des frappes israéliennes contre l'Iran en Syrie, mais des frappes aussi régulièrement d'Israël, de l'armée israélienne, sur le territoire syrien, contre des intérêts, évidemment, israéliens, quoi. Donc, c'est le cinquième raid, donc, le 1er avril, israélien a vidé la Syrie en 8 jours, afin soit d'assassiner, de supprimer ou d'attaquer des intérêts iraniens. Alors, il y avait des cibles qui étaient vidées. Il est, par contre, extrêmement rare, en général, de s'en prendre aussi directement sur une représentation diplomatique. Donc il y a des assassinats ciblés, tous les pays le font, que ce soit avec des drones, la France également le fait au Sahel, hein, évidemment, hein, par exemple, ou l'a fait en Afghanistan. Mais là, s'attaquer à une représentation diplomatique, ça signifiait que de l'autre côté, il ne pouvait pas ne pas y avoir de réponse. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de réponse iranienne, l'Iran perdait la face dans sa puissance locale. C'était évident, quoi. Et évidemment, à contrepartie, si on réfléchit dans la stratégie de l'État israélien, il était évident qu'ils attendaient une réponse de l'Iran pour pouvoir justement, entre guillemets, resserrer les rangs, quoi. Et justement, là, on voit que le droit, il est à géométrie variable, puisque... on va dire fort, avec beaucoup de malicité et beaucoup d'intelligence, de stratégie, l'Iran s'est attaché avec, sur le droit international, en présentant à l'ONU une demande, une argumentation qui se base sur la charte fondatrice des Nations Unies pour légitimer et justifier sa... pardon, sa réponse. La Chine, elle a réagi dans le même sens, hein, en parlant d'une grave violation de la Charte des Nations Unies, du droit international et de la souveraineté de la Syrie en Iran. Quand même, quelle blague. Et donc, la Chine a fermement, évidemment, condamné cette attaque qu'elle a qualifiée d'extrêmement vicieuse. Il faut rappeler que la seule ambassade jamais bombardée, hein, c'est celle de Chine en Yougoslavie, par les USA pendant la guerre de Serbie, et que les USA s'étaient excusés et ils avaient même lâché des thunes pour réparer, faire les réparations. Ils avaient envoyé des briques pour indemniser les familles et réparer les dégâts. Là-dessus, tous ceux qui ont intérêt à défendre leur camp et à défendre leur position d'agresseur et de puissance impérialiste se sont emparés du prétexte, puisque l'ambassadeur de la Russie auprès de l'ONU a déclaré que ceci est une illustration clairement de l'hypocrisie de l'Occident et du deux poids, deux mesures du trio occidental, hein, donc à savoir France, USA, Grande-Bretagne et Israël. Et on a aujourd'hui un échelon supplémentaire qui a été franchi, des gens qui sont obligés de se mouiller. Et malheureusement, des représentants à la tête des États européens qui soit sont dépassés par les événements, soit en tous les cas n'ont pas l'air de bien comprendre ce qui est en train de se passer, ou alors ont des délires de pensée. Parce que d'une part, on a une espèce de guerre qui se situe à un niveau... technologique, drone et par bouton interposé, puisque on a appris il y a quelques semaines par l'intermédiaire de journalistes israéliens, un média en ligne qui s'appelle Plus 972, que je vous conseille, hein, qui est un journal israélien fait par des Israéliens, que les services de l'armée israélienne utilisaient une intelligence artificielle qui s'appelle Lavender, ça veut dire lavande en français, et qui cherche des cibles pour les donner aux bombardiers et aux silos de lancement de programmation de bombardement israélien. Cette intelligence artificielle, elle retrouve les cibles par l'intermédiaire des renseignements qui ont été accumulés, mais également par les datas qui sont accumulées dans les réseaux sociaux, sur Internet, dans les ordinateurs, par la téléphonie, etc., etc. Et donc, elle a donné 37 000 cibles à l'armée israélienne qui devraient être, en tous les cas, éliminées pour pouvoir mettre hors d'état de nuire, de fonctionnement, le Hamas, à la fois sur sa partie militaire, mais aussi sur sa partie politique, et sur sa partie étatique. Or, d'après les sources que les journalistes ont. Les cibles sont ensuite validées par une humanité, un être humain, mais celui-ci, ceci, admettre entre 80 et 90% de probabilité de réussite ou de validité de la cible. Donc, on voit que cette intelligence artificielle, à l'intérieur de sa capacité, enfin, cette intelligence, en tous les cas, ce programme, puisqu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans, hein, oui. Mais non, c'est pas fait. Ça l'intelligence. L'intelligence, c'est être capable de résoudre un problème à partir d'une situation qu'on est donnée. C'est pas être capable de recracher des algorithmes et de faire un calcul. Ça, c'est pas une intelligence. Est capable donc d'avoir 10 à 20% d'erreur, de marge d'erreur, et que cela est en tous les cas validé et accepté par l'armée israélienne. Je dis ça parce que c'est une partie de la guerre qui nous est aujourd'hui présentée et délivrée. Et d'ailleurs, dans la réponse iranienne, il y avait cette volonté de faire un coup, mais de pas, on va dire, réellement provoquer quelque chose de dangereux, puisqu'ils savaient que les drones et tout ça, et les missiles pouvaient être interceptés. S'il y avait eu d'autres volontés de mettre un affrontement à un niveau plus élevé, les Iraniens savaient très bien comment faire, téléguider quelques milices du Hezbollah, utiliser d'autres choses, etc., etc. Donc il y a cette partie de la guerre-là qu'on nous présente comme étant une guerre propre, une guerre technologique, une guerre hybride, etc. etc. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans les têtes de nos représentants, c'est ça la guerre. C'est quelque chose qui se joue avec des ordinateurs et des rapports d'influence. Mais on le voit en fait, la réalité de la guerre en Ukraine, en Syrie et à Gaza. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler d'une guerre à Gaza, puisque c'est en fait, ça serait plutôt un massacre.
Un massacre, c'est plus que ça.
On voit pas vraiment deux belligérants, quoi.
Pour moi, c'est un génocide.
Le génocide, c'est après. Tu sais bien qu'on dit, c'est quand ils sont faits, qu'on dit que c'est des génocides. On dit pas avant ou pendant. Non, mais pour être clair, oui, je peux être d'accord avec toi, mais il y a clairement une volonté d'en terminer avec la question palestinienne, ça c'est sûr, on va dire en tous les cas politiquement.
Ils veulent absolument faire le grand Israël, c'est clair.
Et physiquement, et ce qui se passe en Cisjordanie aujourd'hui est également le témoin de ça. Mais donc voilà, la guerre en fait c'est ça, la guerre c'est aussi des hommes et des femmes et des civils et des gens qui s'engagent et qui engagent leur propre corps. Il ne peut pas y avoir de guerre sans engagement de son propre corps, sinon c'est pas une guerre, c'est un conflit ou une conflictualité qui est autre. Malheureusement, on a vraiment des individus qui sont pas en train de comprendre véritablement ce qui se passe. Alors bon, on va se faire une pause pour reprendre notre respiration. On va écouter les Clash, Washington Bullet, un très très bon identifiant impérialiste. On va rappeler que entre 2013 et 2022, 68% des armes livrées à l'État d'Israël provenaient des États-Unis. Ouais. Voilà. Alors parfois les États-Unis font la guerre eux-mêmes hein, directement en envoyant des bombes et des soldats. Des fois, ils utilisent juste ce qu'ils ont sous la main ou d'autres choses. Voilà. Donc allons-y, Camille, s'il te plaît. Mama, mama, look there, your children are playing in the street again. Don't you know what happened down there? A youth of 14 got shot down there. The cocaine guns jammed downtown. The killing clowns, the blood money men, shooting those Washington bullets again. As every cell in Chile will tell the cries of the tortured men. Remember Allende and the days before the army came. Please remember Victor Jara in the Santiago Stadium. Verdad, it was Washington bullets again. And in the Bay of Pigs in 1961, Havana for the Playboy and the Cuban Sun. For Castro is the color is a redder than red. Those Washington bullets won Castro dead. For Castro is the color. Alors, heureusement, si il est assez flippant quand même, assez angoissant de voir les états et l'actualité internationale. Le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est du côté, on allait dire, des vrais gens, des côtés des peuples, qui peut-être vont réussir à comprendre que leur intérêt est de vivre ensemble en paix et pas de servir de chair à canon pour les différents abrutis qui nous gouvernent.
Ça va être dur quand même, parce que vu les médias qu'on a...
Alors, c'est compliqué, parce que oui, quand il y a la guerre, surtout quand on perd comme ça, des proches ou qu'on a des otages, on est dans les affects et l'union sacrée et la capacité d'entraînement, elle est assez puissante. Mais malgré tout, il faut quand même le dire et le publiciser. Il y a des résistances et il y a des choses. Par exemple, dimanche 6 avril, ce sont encore des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté en Israël pour le retour des otages et contre la politique de Netanyahou. Alors, ce n'est pas forcément en soi des manifestations contre la guerre et contre le massacre de Gaza, mais on sent que quand même le vernis se craquelle et que la stratégie de Netanyahou fait de moins en moins consensus, en tous les cas qu'elle n'aboutit pas au résultat escompté, puisque faut-il le rappeler quand même dans cette espèce de paradoxe tel qu'il nous est présenté parfois par les sionistes les plus stupides. L'État d'Israël est censé assurer la sécurité du peuple juif en général et des juifs en particulier. Or, aujourd'hui, être juif en Israël, c'est d'être dans un état d'insécurité véritablement terrible, puisqu'on est menacé à la fois par la population que son État colonise, et puis d'autre part par les populations et par les États qui sont autour et qui sont sur le sentier de la guerre et dans une conflictualité permanente. Donc la politique de Netanyahou, elle crée de l'insécurité pour les Israéliens en particulier pour les Juifs israéliens en général. Mais donc il y a quand même des espoirs là-dedans, et une partie des espoirs vient souvent et parfois de la jeunesse, surtout pas des vieux cons comme nous. C'est-à-dire que, bon, en capacité de nuisance, on baisse, mais bon. Voilà, on vous avait parlé il y a quelques semaines de Talmitnik, qui avait été incarcéré pour refus de servir dans l'armée israélienne. Le 5 avril 2024, un troisième jeune s'est présenté devant la prison militaire de j'ai oublié la ville, c'est pas grave. Il s'appelle Ben Arad, il a 18 ans et il est le troisième objecteur de conscience emprisonné. Donc il y avait Talmitnik qui était le premier. Entre les deux, il y avait Sophie Orr, dont je ne voulais pas parler parce que je n'ai pas passé. Et voilà. Et donc Ben a 18 ans et il explique comment et pourquoi il a décidé de pas aller. Et depuis que la guerre a commencé, il explique, il a compris que j'avais l'obligation de faire entendre ma voix et de faire un choix. Faire un choix pour dire stop au cycle de violence qui est en train de se passer. C'est ce qu'il dit. Il est né à Ramat, pas très loin de Tel Aviv. Il a été pendant quelques mois volontaire dans un kibboutz. Donc il a une sensibilité de gauche. Et il explique que le meurtre des civils palestiniens, la famine, le désastre, la destruction de leur maison et plus des crimes de la colonisation dans les territoires occupés, c'est ce qui alimente le the flame of the hatred and the terror. Donc c'est le carburant à la haine et à la terreur. Il fait voilà, il dit combattre ne ramènera pas les otages, il ne fera pas ressusciter les morts, il ne libérera pas les Gazaouis du Hamas, du contrôle du Hamas, et il n'apportera pas la paix. S'il explique que si on veut la paix, malheureusement, il faut discuter même avec son pire ennemi, il faut négocier et avoir des négociations. Alors voilà, il part en prison pour un mois, il a été accompagné par sa famille et ses amis. Alors, c'est intéressant parce que là aussi, il y a quelque chose qui va craquer. Bon, alors, il faut expliquer hein, comment ça se passe. Le service militaire est obligatoire en Israël. Il est de près de 3 ans pour les garçons et de 2 ans pour les filles. Mais on sait que il y a environ 30-35% des gens qui vont pas. Qui se présentent pas et qu'on va pas forcément aller chercher. Alors soit ils payent des amendes, soit finalement ils trouvent un moyen de passer entre les gouttes, ou soit finalement à la fin ils font un deal et ils font un service civil de 1 an. Bon, voilà, on a un jeune sur 3 qui va pas se présenter parce que effectivement 3 ans c'est très 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 long. Et en plus ce service, il est actif, c'est-à-dire que, ben voilà, hein, là, on a une armée de conscrits. Donc, étant donné la régularité des conflits dans lesquels est engagée l'armée israélienne, on a des chances d'être au feu et d'être au combat. Donc, il y a plein de gens qui sont certainement pas envie d'aller se battre à Gaza pour tout un tas de bonnes raisons qui leur appartiennent, ou même des raisons qui sont tout à fait nobles et qui vont pas aller se présenter. Bon, ça va être un peu plus compliqué là parce qu'on a besoin d'un peu plus de monde, mais en tous les cas, qui vont pas y aller. Là, la différence avec ces jeunes, c'est qu'ils se présentent à l'audience et qu'ils disent je refuse de porter l'uniforme et je ne veux pas avoir de service civil.
C'est une démarche tout à fait politique.
Tout à fait. Et c'est en cela qu'elle permet de, on va dire, de donner de la force aux gens qui, à l'intérieur de la société israélienne, aux jeunes qui, à l'intérieur de la société israélienne, voudraient être dans cette démarche-là. Et en plus, c'est quelque chose qui va les marquer pour toujours, parce que avoir ce statut de refusnik, d'objecteur de conscience en Israël, c'est avoir un marqueur très très important pour la suite de sa vie dans ce pays où l'armée, la militarisation est hyper 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 importante, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui quand même mérite d'être souligné. On mettra la traduction de l'interview sur le site de l'OCL. C'est quand même assez remarquable de voir des jeunes de 18 ans qui sont capables d'avoir ce type d'engagement. Non pas que les jeunes de 18 ans soient pas capables de le faire, mais d'avoir cette maturité et cette capacité justement à s'extraire de la propagande, telle qu'il est. Et cette question de l'armée et des soldats, elle va être aussi un enjeu important, puisque depuis bientôt 6 mois, des centaines de milliers de réservistes sont mobilisés pour faire fonctionner l'armée israélienne, voire pour attaquer le territoire de Gaza ou couvrir les exactions des colons en Cisjordanie. Et la société israélienne, elle a besoin de ces gens qui sont des travailleurs, parfois hautement qualifiés, pour pouvoir faire tourner son économie. Et d'un autre côté, elle a aussi besoin du prolétariat palestinien pour pouvoir travailler aussi, puisque une des intérêts quand on est un colonisateur et quand on est une puissance coloniale, c'est de disposer d'une main-d'œuvre corvéable et pas chère pour pouvoir faire les trucs que nous on veut pas faire. Alors que ça soit dans les champs, par exemple, quand il y a des récoltes de fruits et de légumes à faire, puisque il y a pas mal de d'exportations de légumes et de fruits dont certains se retrouvent malheureusement dans nos magasins sous d'ailleurs maintenant des fausses marques qui ne révèlent pas l'origine. C'est par exemple le cas des oranges et des avocats Méhédrine qui sont distribués à Lidl, qui sont en fait produits à Rafah et en Israël, mais dont l'origine est marquée Maroc sur les étals. Mais quand on regarde le code barre, on voit bien.
Comprend, ouais.
Ouais. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des poussées et il y a même quelques transferts de travailleurs palestiniens dans les entreprises israéliennes, malgré l'intensité du conflit.
Alors, je crois que j'ai lu un truc là il y a quelques heures, justement ce problème là. Dirons-nous que effectivement il y a les travailleurs palestiniens qui bossaient en Israël ont été virés, leurs contrats de travail ont été liquidés, mais on constate qu'ils ont été, pour certains d'entre eux, réembauchés depuis. Pourquoi ? Parce que simplement ils en ont besoin, c'est évident. Alors au début, Israël pensait s'en sortir avec des gens venant d'Asie. Sauf que ça leur pose des problèmes tout de même, ces gens qui viennent d'Asie. Parce qu'eux aussi peuvent avoir des revendications. Eux aussi peuvent vouloir s'installer et demander la nationalité israélienne à terme, etc. Donc là, effectivement, ils sont un peu coincés.
Là, il y a les contradictions de cette société, de cette organisation sociale qui explose. Surtout qu'en plus, on va dire, les Thaïlandais, les Indiens ou les Pakistanais qui viennent ne sont pas forcément dans un rapport de coloniser ou de colonisation. Donc,
ils viennent pour
l'argent.
Ils viennent pour bouffer, pour
le fric
l'argent.
Et récupérer l'argent.
Il y a quelqu'un qui disait, quand les Palestiniens viennent chez nous bosser, le fric qu'on leur donne, finalement, ça repart dans l'économie israélienne.
Et là, c'est pas le cas.
Et là, c'est pas le cas avec ces gens venant d'Asie.
Ouais. Alors, on espère, oui, on pense d'ailleurs, nous, que s'il y a un embryon de solution, c'est effectivement du côté des populations et de cette population israélienne qui va peut-être quand même à un moment sortir de cet état de sidération. Parce que justement, Ben, quand on lui demande « Est-ce que tu as peur d'aller en prison dans cette atmosphère, cette ambiance en ce moment ?» Il dit la peur, elle fait partie de la persécution politique, de la persécution légale et de la loi, et de la prison en soi. Mais ce qui me fait peur, c'est que quand je dis « When you speak in terms that the public refuses to hear », quand tu parles aux gens ici et que tu leur parles de 10 000 enfants qui sont morts à Gaza, ils ne comprennent pas. Ils te disent que c'est normal, ils te disent que tu mentes, ils savent pas de quoi tu parles, ils sont complètement aliénés, ils sont complètement hypnotisés, ils sont complètement sortis d'eux-mêmes. Et c'est ça, moi, qui me fait peur. C'est ça ce qu'il dit, ce gosse, c'est qu'il a l'impression de vivre dans une société où les gens sont devenus complètement tarés, complètement obsédés, complètement paranoïaques, et que lui, il ne veut pas vivre dans cette société-là, que finalement peut-être que ce mois de prison, ça va lui faire un peu des vacances pour sortir de toutes ces choses. Voilà, on est parti de l'échelon très très haut de ces grandes puissances impérialistes et internationales pour essayer de descendre tout en bas. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion un jour de repasser cette émission qu'on avait faite il y a quelques années de cela avec Guy Davidi, un membre des anarchistes contre le mur, qui se battait justement contre la construction de ces murs avec les comités populaires en Palestine, et qui lui nous expliquait que effectivement un des problèmes de ces deux peuples, c'était que malheureusement il y a beaucoup de gens qui parlent à leur place et qui parlent pour eux, alors que quand les gens ils sont confrontés au réel et qu'ils vivent ensemble, ils vivent très très bien ensemble, et ça se passe relativement correctement quand il n'y a pas de volonté de puissance. Voilà, bon, nous on va suivre, peut-être qu'on sera amené à vous donner d'autres mauvaises nouvelles l'année prochaine si notre Micron premier a décidé de revêtir son battle dress. Et visiblement, malheureusement, c'est ce qu'il a bien envie de faire, puisque dans son interview d'avant-hier, il a évidemment déclaré que nous avions fait ce que nous avons à faire. Voilà. Hein. Exactement. Bon, justement, toi, tu as d'autres nouvelles peut-être meilleures que les miennes, non ?
Non, c'est pas
sûr.
C'est pas du tout meilleur. Mais bon, ça, c'est plutôt franco-français, franco-kurde, dirons-nous. Puisque en 15 jours, il y a eu 3 militants kurdes qui ont demandé l'asile en France. L'asile a été refusé alors qu'ils devaient l'avoir normalement. Ils remplissaient vraiment tous les critères pour obtenir l'asile en France, comme d'autres l'ont eu au niveau des Kurdes. Et là, ils se retrouvent maintenant expulsés en Turquie, dont l'un d'ailleurs est gravement malade, il a un problème très très grave d'une maladie incurable. Mais alors, le problème, c'est qu'on n'en parle pas. Il y a eu des réactions tout de même. Il y a eu une manifestation à Paris samedi. Il y a eu une manifestation dimanche à Marseille. Il y a aujourd'hui, il y avait quelque chose à Strasbourg.
D'accord.
Mais c'était de l'ordre anecdotique, quelque part. C'était pas des milliers de personnes.
Des rassemblements.
Ouais. C'était des rassemblements. Le problème aussi, c'est que c'était des Kurdes. C'est que des Kurdes. C'est-à-dire que, alors on ne se rend pas compte, mais la France a changé de pire en pire avec la dernière loi sur l'immigration, et qu'on va en payer les conséquences. Et il y a des tas de gens qui en payent les conséquences aujourd'hui, dont ces militants, puisqu'ils avaient une OQTF. Et là, ils font la chasse aux OQTF. Pour rapatrier ces gens.
Obligation à quitter le territoire français,
voilà.
Je t'en prie.
Au QTF.
Il n'y a pas de problème.
Donc, alors, bon, il y a des réactions tout de même, mais n'empêche que La France expulse vers la Turquie des militants kurdes, alors qu'on était bien content de les trouver quand il fallait se battre contre Daesh. Mais ça, c'est classique, dirons-nous. Hein.
Bien sûr.
Bon, tout à fait. Alors, il y a aussi le fait que...
Alors, j'ai une question à te poser. En termes de classification internationale et dans le registre de l'OFPRA, comment est considérée la Turquie ? Puisque... on considère qu'on n'a pas le droit d'expulser les gens dans un pays non sûr.
Alors,
comment est considérée la
Turquie ? Ça, c'est pas respecté, c'est clair. Est-ce que la Turquie est considérée comme étant un pays sûr ? Non, non. Mais n'empêche que la France, depuis quelques mois, fait n'importe quoi à ce niveau-là. Jusqu'à maintenant, quand quelqu'un avait été obligé de quitter le territoire français, dans la majorité des cas, il pouvait refuser... le pays d'où il venait.
Okay.
Le problème, c'est qu'il fallait en trouver un autre. Bon, alors, c'était des fois difficile. Mais n'empêche que ça l'était. Maintenant, la France s'assoit dessus, c'est-à-dire ce type de fonctionnement. C'est-à-dire que quand un mec qui va être... il est condamné, le Kurde en question, le dernier, à 6 ans de prison et deux mois. 6 ans et 2 mois. Maintenant, il se retrouve en prison en Turquie. Hein.
Il a été arrêté à la sortie de l'avion.
Voilà, il a été arrêté à la sortie de son avion. Donc, bon, tu t'aperçois que au niveau international, au niveau du droit international, ça n'existe quasiment plus maintenant. C'est vraiment le bordel le plus total.
D'accord.
Au grand mépris de tous les accords qu'il y a pu y avoir.
Bah, de toute façon, on a toujours dit ici que le droit d'asile était quelque chose... d'immatériel et qu'il se matérialisait selon les intérêts et les envies du moment. Donc il n'y a pas
oui,
forcément...
Alors, oui, tout alors... à fait. Il faut toujours faire de la politique.
Voilà.
Erdogan a peut-être perdu les élections municipales. Là, il a pris une claque pas possible. Mais la Turquie est quand même dans tout ce que tu as parlé tout à l'heure au niveau international, au niveau des grandes puissances du coin, est toujours une grande puissance... du coin, qui fait partie de l'OTAN, déjà, et qui est ami...
Deuxième armée de l'OTAN. Hein.
Deuxième armée de l'OTAN, et qui est ami, de fait, avec la France. Quand, par exemple, il y a eu la Suède, et puis aussi la... Je ne sais plus quel pays, l'autre pays à côté, qui a intégré l'OTAN, aussitôt, Erdogan a fait en sorte que ces pays-là n'acceptent plus chez eux les militants kurdes.
Les militants kurdes, oui, c'était
un des points
qu'il avait mis dans la balance pour pouvoir autoriser l'entrée de ces pays nordiques dans l'OTAN.
Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la France, c'est évident. C'est évident qu'il y a à haut niveau des échanges entre la Turquie et la France en disant... Attention, si vous ne mettez pas un certain nombre de militants qui sont chez vous et qui d'ailleurs n'ont pas le statut, hein, on ne comprendrait pas avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Voilà, je crois que c'est le discours d'Erdogan et ça marche très bien.
Alors, il y a ce niveau-là, mais je pense aussi que aujourd'hui, c'est quelque part ce qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que on a des habitudes qui ont été prises à la fois par l'administration française et par les instances de gestion de ces questions d'immigration, d'étrangers et de justice administrative qui vont dans le sens de la réaction et de la non-attribution de ce droit d'asile. Je m'explique. Nous sommes issus d'une histoire parfois bouleversée et bouleversante. Je me rappelle, alors je vais parler de moi, de ma vie, j'avais rencontré des vieux, personnes qui faisaient du catéchisme, qui étaient des catholiques de droite, bien comme il faut, très très bien, mais qui avaient, et ça m'avait marqué, étaient rentrés en fureur quand on avait créé la carte d'identité infalsifiable dans les années 80. C'est-à-dire que même pour une personne de droite, catholique, bien française, c'était un droit absolu de pouvoir avoir des faux papiers, d'avoir le droit d'avoir des faux papiers. Pourquoi ? Parce que ils avaient été témoins d'une histoire, ils l'avaient vécu personnellement, dans leur chair, où la question de la désobéissance, la question de l'illégalité, la question de la conflictualité dans l'histoire, elle était inscrite. Et d'une manière ou d'une autre, cette histoire-là, cette mémoire-là, elle s'était aussi transformée. Elle avait aussi ruisselé à l'intérieur des institutions de l'État. Aujourd'hui, vous allez dans un service des étrangers, dans une préfecture, et vous avez des gens qui ne vous parlent même plus, qui vous parlent du fond du bureau en vous disant non, ou qui refusent d'examiner les documents, qui vont à contrevenant de la loi. Et il n'est pas inutile de penser que la Cour nationale du droit d'asile est aujourd'hui dirigée par des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est d'être militant politique en Turquie, par exemple, ou qui ne pensent pas qu'on puisse souffrir de cela, et qui ne pensent pas que utiliser par exemple ce droit d'asile en France, c'est permettre justement de créer des solutions pour éviter qu'il y ait de la conflictualité, quoi. C'est même pas quelque part faire œuvre d'humanité ou de charité, c'est un outil politique, quoi. Et je pense que depuis quelques années, on a aujourd'hui véritablement, enfin depuis même une décennie quand même, des passages dans l'administration française, hein, dans les mentalités. En plus, comme il y a de plus des conditions de travail qui sont de plus en plus dégueulasses et de plus en plus précaires, ça va avec, hein, en général. Hein, quand tu fais un travail de merde, tu le fais dans des conditions de merde, ça c'est sûr. Tout ça, c'est bien arrivé. Alors, il doit y avoir quand même encore quelques résistants par-ci ou par-là, ou des gens qui ont le temps de faire preuve d'humanité. Mais quand même, aujourd'hui, dans les services des étrangers et dans les préfectures et dans les cours de justice et dans les cours de tribunal administratif, on a quand même des gens qui ont bien intégré que être étranger en France, c'était pas normal, quoi. Hein. C'était
qu'au niveau économique, on va le payer. Enfin, la France va le payer, pas nous, mais l'économie française va le payer très cher. Alors, il y a aussi parce que bon, actuellement, qu'il faut voir, c'est que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va être la course. Il va y avoir une contestation qui va monter au niveau de l'immigration en France, au niveau de gens qui vont se retrouver sans papier, qui vont se retrouver expulsés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec la nouvelle loi qui a passé, si jamais vous avez eu dans votre vie une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, vous pourrez plus rester en France.
C'est bye bye.
C'est bye bye, quoi. Alors que certains d'entre eux qui ont eu cette OQTF sont maintenant français, sont devenus français, hein, depuis pas mal d'années. Et on en est là,
ou
aujourd'hui, la France.
Ou un titre de séjour de 10 ans, par exemple.
Voilà, on en est là. Il y a eu l'immigration qui s'est battue jusqu'en 81 pour avoir un droit d'une carte de 10 ans renouvelable automatiquement. C'est ça qui est remis en cause aujourd'hui. Il est certain que pour avoir cette carte de 10 ans, il faut avoir un niveau de français équivalent à ce qu'on demande à un étudiant étranger quand il veut s'inscrire dans les facs françaises. Voilà le niveau qu'on demande, hein. C'est-à-dire que c'est le niveau B1, B2. Alors, jusqu'à maintenant, il y avait le A1, c'est pour vraiment comprendre l'ABC de ce qui t'arrive. Le A2, c'était l'examen A2. Tout ça, c'est payant en plus. Hein.
Ah bah.
Le A2, c'était pour ceux qui voulaient
pas de petit profit,
qui voulaient avoir une carte de 10 ans. Maintenant, non, c'est plus le A2 pour avoir une carte de 10 ans, c'est le B1. Et pour avoir la nationalité française, c'est le B2. Donc, autant dire que pour avoir la nationalité française, comme dirait Le Pen, ça se mérite, hein, c'est clair.
Ah ben, vaut mieux être français, en fait. Bon.
Et encore,
c'est même pas sûr, parce que non seulement il faut savoir faire des vers, Et puis voilà, hein. mais en plus, il faut connaître la législation parce que c'est un package. C'est-à-dire que si tu sais pas qu'est-ce que c'est qu'un sénateur, un député, une Marianne, un drapeau et une constitution.
Oui, parce qu'il n'y a pas que la langue française.
T'as intérêt à bosser derrière. Et on n'imagine même pas le nombre de Français qui se feraient caler.
Qui se feraient caler. Oui, ouais, ça, un pourcentage incroyable.
Remarque, en même temps, ça pourrait peut-être faire de la place. Ça... Au moins, on pourrait y avoir. Non, mais tu l'as dit, et c'est hyper important de le souligner, la plupart du temps, les gens qui viennent en France, ils rentrent régulièrement en France. C'est la loi et l'État qui fabriquent les personnes sans papier, on va dire, en situation régulière. C'est la loi qui crée l'irrégularité et l'illégalisme. Soit parce que y a un bordel monstrueux et un nombre de trucs impossibles à avoir, soit parce que à un moment ou un autre, elle décide de refuser d'accorder un titre de séjour et donc elle fabrique cette chose. Et
jusqu'à maintenant, par exemple, pour avoir la carte de 10 ans, on l'avait automatiquement, quasiment, au bout d'un certain nombre d'années après avoir eu des cartes d'un an. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une autre carte pluriannuelle. Pour faire le tri, de toute façon, quand ils font un truc comme ça, c'est pour faire le tri parmi les cartes d'un an, pour prendre les meilleurs, pour espérer que ces gens-là vont pouvoir accéder à la carte de 10 ans, avec évidemment le bagage au niveau de la langue française et aussi au niveau de la connaissance de notre chère démocratie. Donc voilà, là, ils sont en train de faire la chasse à ceux qui ont des cartes d'un an et qui ne sont pas passés à la pluriannuelle. C'est ainsi que dans ma permanence juridique que je fais, je viens de retrouver quelqu'un qui a depuis longtemps une carte d'un an, qui n'a pas du tout pensé qu'un jour on lui refuserait. Or, avec la nouvelle loi, ce type de carte, ça peut être valable que 3 fois de suite.
Hein, c'est trois fois un an, d'accord.
3 fois un an. Après, c'est fini. C'est fini, donc après, c'est l'OQTF.
Ou la 10 ans, non?
Ah non, là, tu peux avoir la 10 ans, il faut avoir un sacré bagage en français. Il faut avoir un sacré bagage au niveau des connaissances, etc.
D'accord. Donc tu es en train de nous dire que potentiellement, aujourd'hui, le séjour, il serait limité de fait à 1 an. À 3 ans, pardon. Les gens qui ont trois ans de présence sur le territoire...
Tu peux pas avoir une carte d'un an plus de trois fois.
Mais donc, c'est incroyable.
C'est incroyable. Non, mais ça veut dire aussi que tu as des milliers de gens qui vont se retrouver sans papier, alors qu'ils en ont des papiers depuis longtemps. Cette personne, par exemple, dont je vous parlais, elle est quand même parent d'enfants français, 3 enfants français. Hein. Mais ça, c'est pas au niveau de la loi, c'est mis que il n'y a plus de passe-droit là-dessus. Hein, c'est-à-dire que tu peux avoir.
Mais elle est totalement inexpulsable en fait.
Et ils vont essayer de le faire quand même. Ils vont essayer de le faire.
D'accord, ouais. On peut imaginer que ça tient pas devant un tribunal d'expulser un parent de trois enfants.
Ça tient pas peut-être au niveau du tribunal administratif. Et comme le tribunal administratif a été saisi, on va savoir effectivement ce qu'il en est. C'est important.
D'accord. Mais alors, l'avantage, parce que si jamais on cherche un peu quand même, parce que, évidemment, on le sait, c'est des salopards, mais ils sont méchants. Mais il y a aussi quand même un intérêt, c'est que ça te crée une population qui est dans une situation de dépendance absolue. Parce que quand tu n'as pas de papier, quand tu n'as pas de situation régulière, ben pour bosser et pour subvenir à tes besoins, il faut se retrouver dans des conditions de travail et dans du travail sous-payé et dur, qui fait que il y a des centaines de milliers de personnes. On estime à 400 000 personnes. Alors évidemment, c'est difficile à dire parce que par définition, c'est du travail caché. On estime à 400 000 personnes qui bossent sans en situation régulière, donc non déclarée, etc., etc.
Ça, c'est facile à savoir, ils le font. Et il suffit de regarder le nombre de cas qui ont l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, justement, est réservée. C'est pour ça qu'elle a été attaquée par la droite et par l'extrême droite, cette aide médicale d'État, parce qu'elle est réservée à ceux qui sont sans papier. C'est une couverture médicale minimale qui est réservé aux sans-papiers. C'est vraiment très clair. Il suffit pour l'avoir d'avoir 3 mois au moins de présence en France, de pas trop avoir de revenus, mais ça, généralement, il n'y a pas de problème.
Ça va avec.
D'avoir, alors, ce qui est plus difficile, c'est d'avoir une adresse très, très fixe. Voilà. Donc, il suffit de connaître le nombre de gens, et ça, l'assurance maladie le sait. Il y a plus de 380 000 personnes qui ont l'aide médicale d'État aujourd'hui. Mmh. C'est pour ça qu'on t'indique qu'il y a 400 000 sans-papiers en France.
Alors, à supposer que tous les gens qui bossent font la demande de l'aide médicale d'État.
Tout à fait.
Ce qui n'est pas forcément évident. Entre la peur,
Moi, j'en rencontre toujours.
Le temps, la difficulté.
Pour lequel je vais faire cette démarche. Ouais. Ils n'ont pas fait.
Ouais.
C'est évident que c'est pas du tout. Dès qu'on a affaire à l'administration, ça élimine beaucoup de gens, c'est évident. Alors en plus, l'aide médicale d'État, ça te permet effectivement une certaine couverture sociale. C'est aussi une propre protection pour nous, au niveau de la santé, quoi, évidemment. Si on veut pas être d'avoir des risques de tuberculose importants, on a intérêt à ce que effectivement toute la population qui vit ici soit de toute façon assumée au niveau de la santé.
Ouais, donc si on parle de 400 000 personnes, ça représente quand même 1% de la population active, quand même. Donc ça représente 5%, entre 5 et 7% des travailleurs de ce pays. Tu vois quand même les proportions.
C'est énorme, c'est énorme.
Il y a un travailleur sur 20 qui bosse sans papier. Alors évidemment, c'est pas dans la banque.
Alors on a réussi. On a réussi à en rencontrer pas mal ces temps-ci à Reims.
Tout à fait.
Je pensais qu'à Reims, on était un peu à l'abri de ça vu notre pauvre. À part évidemment dans les vignes et puis peut-être au niveau
du bâtiment,
l'agriculture,
oui.
Bâtiment. Je pensais pas qu'on pouvait rencontrer des personnes. Un nombre non négligeable.
Tout à fait.
Négligeable.
Dans la sécurité.
Dans la sécurité, carrément. Dans la sécurité. Là, il y avait quelque chose qui me faisait rire tout à fait tout à l'heure. Il y avait un syndicat de police. Bon, je me rappelle plus lequel. Ça n'a aucune importance. Ils sont tous les mêmes. qui disait, pour les jeux, on est quand même embêté parce que si on fait les jeux avec ce qu'a prévu, le président de la République, là,
au niveau... 360 000 personnes sur les quais de la Seine, ouais.
Voilà, c'est ça. Il va falloir quand même du monde pour encadrer tout ça. Et au niveau de la police française, on n'est pas assez nombreux. Bien sûr, il y a le problème. On va effectivement mobiliser, les gens qui sont dans la sécurité. Bon. Alors, quand on sait ce qui se passe dans la sécurité aujourd'hui, et quand on voit ce qu'on a vécu et ce qu'on va vivre et ce qu'on vit encore sur Reims au niveau d'un certain nombre de choses au niveau de la sécurité, on vous en parle pas là, mais on vous en parlera une autre fois.
Peut-être, oui, on aura l'occasion de revenir là-dessus puisqu'on va creuser et on va continuer à voir
C'est vraiment donneur d'ordre, sous-traitant.
C'est quelque chose de très classique dans la donnée du travail, à savoir que il y a effectivement un donneur d'ordre principal et des sous-traitants, mais ce qui a ce petit, charme discret, c'est effectivement de voir des gens travailler dans la sécurité qui peuvent être parfois au contact de la loi et même peut-être certainement de la police et de voir justement l'hypocrisie absolue de ce système.
Ah ouais.
Mais malheureusement, il n'y a pas que des choses trop drôles puisque derrière, il y a une exploitation et on profite de la misère des gens complètement. Voilà.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Côtes Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.
Alors, run em Jules fast. Je sais pas si on m'entend. On m'entend ? Allô ?
Non, on t'entend pas.